et au liqueur. Oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Mais toi, c'est t'as un petit peu un voleur aussi. Elle va porter plainte pendant qu'on y est.
Vous voulez porter plainte?
Je passe l'éponge.
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Plan séquence.
Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Sur Radio Campus Tour.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer.
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je te détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol!
Chef négatif, chef!
Chut! Comme c'est joli. Y'a Bambi qui fait dodo.
Tous les jeudis soirs.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé! Ah, c'est ça? Ah, tu me crois givré à mort!
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, à l'écoute de Plan Séquence, votre émission cinéma. On est le samedi 21 septembre, il est midi. On va vous parler pas que de films qui sont sortis au cinéma, mais aussi de séries, de films, de plateformes, puisqu'on est assez éclectique. Et je ne suis pas seule pour animer cette émission, il y a Charles. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Tu vas bien?
Ça va très bien, ouais.
Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler du Petit Manchot.
Oui, c'est vrai.
Je vais vous parler,
ah oui,
voilà, de
Petit Manchot.
Mon ami, le, ouais, Petit Manchot.
Ah, super, t'as tenu parole. Et à côté de toi, Géry. Bonsoir Géry.
Salut.
Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler d'une série, un hommage posthume à DJ Mehdi, une série documentaire réalisée par Arte.
Super. Et pour ma part, je vais vous parler du Ma vie, ma gueule de Sophie Filière. Il y a Louise qui va arriver aussi incessamment sous peu. Et Pierre aussi nous a envoyé une chronique qu'on vous passera dans quelques instants. Peut-être avant quelques news, peut-être sur le festival Mauvais Tour qui aura lieu dans un peu moins d'un mois maintenant, hein, du 17 au 20 octobre. Et les passes seront en vente lundi, Géry.
C'est ça, breaking news. Donc les passes et places en vente lundi. Ne tardez pas trop et la programmation suivra très prochainement.
Voilà, parce que je pense que ça va être
sur les réseaux sociaux.
Il y aura des choses aussi bien au studio, autant machine.
Batouille.
J'avais Bateau Ivre en tête. J'avais Bateau Ivre en tête en plus. Il y aura un ciné-concert si je m'abuse là-bas.
C'est ça. Et également au conservatoire Joséphine Baker.
Et il y aura aussi un village du festival. Enfin, on essaiera d'avoir les organisateurs avant la tenue du festival pour en savoir un peu plus. Et puis on va essayer d'avoir Elsa Loncle de la Cinémathèque de Tours, puisque la saison de la Cinémathèque de Tours reprend le 30 septembre prochain, avec en ouverture de cette saison La Talente de Jean Vigo. À 19h30 le lundi 30 septembre. Donc si vous ne l'avez pas vu, ce film de Jean Vigo, qui fait partie de ce courant français du réalisme poétique, je vous conseille d'aller voir. C'est un des plus beaux films de cette période-là, en tout cas, qui est l'un des trois films de Jean Vigo, qui est un cinéaste mort à l'âge de 29 ans, donc sans avoir pu vraiment faire le nombre de films qu'il aurait dû faire. Voilà, pour les autres news, il n'y en a pas forcément trop, à part vous redire que vendredi prochain, si vous êtes dans le coin, il y a une avant-première du prochain film de François Ruffin et Gilles Perret, qui s'appelle « Au boulot », qui est une comédie, un documentaire comédie sur la réinsertion d'une riche dans le monde du travail. Je ne l'ai pas encore vu, mais les premiers retours sont assez bons. Donc, ils vont faire toute une tournée d'avant-première en France. Le film sort le 6 novembre. Et ils vont à Bléret, puisque le film a été... Il y a une grosse séquence du film qui a été tournée à Bléret dans une structure qui s'appelle la boîte d'à côté. Donc, voilà. Si vous êtes dans le coin, c'est à la salle des fêtes de Bléret vendredi prochain. Voilà. Vas-y, Charles.
Et bien, il y a aussi, oui, petite rubrique nécro.
Ah bah.
Ma spécialité. Parce que maintenant tout le monde est un peu au courant parce que c'est arrivé il y a déjà 10 jours, mais il y a la mort de James Earl Jones, qui était la voix de Darth Vader.
Ah oui, c'est vrai,
dans Star Wars, quand même une voix qui est assez mythique. Et
Dans le Roi Lion aussi, il n'a pas eu... C'est pas lui qui doublait certains personnages dans le Roi Lion. Enfin, un personnage.
Oui, ouais, tout à fait. Il a fait pas mal de voix, même dans Judge Dredd. Narrateur, effectivement, il avait une grosse voix. Alors, c'est lui juste qui fait la voix. C'est pas lui qui jouait Darth Vader. dans le costume, c'était David Prowse qui, lui, est mort il y a déjà quelques années, en 2020. Et qui était un athlète de 1m95, très grand, Darth Vader, il est très grand. Et effectivement, alors c'est drôle d'ailleurs, parce que sur le tournage, c'était l'acteur qui était dans le costume qui parlait. Donc il existe on peut voir des extraits du film avec la voix de l'acteur, où c'est un peu ridicule parce qu'il n'avait pas du tout la voix qui allait avec le personnage. Une voix tout à fait... c'est pas plate, mais classique. Quoi,
ouais, monotone.
Alors qu'effectivement, James Earl Jones, lui, avait cette grosse voix qui a été retravaillée en plus derrière. Donc il a apporté la voix, mais l'ingénieur du son, pour donner cet effet de voix qui vient de l'intérieur d'un masque, il a en fait enregistré la voix de l'acteur. Il a rediffusé ça sur des haut-parleurs. Il a réenregistré le son venant des haut-parleurs avec un autre micro un peu pourri et en trafiquant un petit peu certains effets sonores. Mais voilà, en fait, tout ça pour donner une voix qui vient de l'intérieur d'un casque, voilà, à travers un... Donc c'est, voilà, ça a été beaucoup de bidage. Mais effectivement, c'est lui, la fameuse voix de Darth Vader. Et donc voilà, il vient de mourir. Il avait plus de 90 ans, je crois. Donc ouais, il a eu quand même une sacrée carrière, effectivement, en dehors de cette voix. Il a quand même énormément de films à son actif, même en tant qu'acteur. Et alors, pas forcément beaucoup de films très, très connus pour nous, mais effectivement, comme tu disais tout à l'heure, dans Le Roi Lion, il faisait la voix de Mufasa. Donc, et puis dans Roi Lion 2 aussi. Et ça faisait maintenant déjà... une bonne dizaine d'années qu'il avait stoppé sa carrière. Enfin voilà, il a quand même une belle carrière longue au cinéma et à la télévision.
Et en parlant de Mufasa, il y a un Mufasa qui sort à la fin de l'année là.
Ah bah oui, c'est vrai, ouais. Puis il y a un Bambi live aussi.
Oui.
Mais pourquoi ?
Ouais, ouais, bah oui, ce que je l'ai vu, on peut dire pourquoi, oui. Alors c'est pas Disney, c'est là où c'est trompeur. On pourrait penser que c'est un live action Disney là.
Bambi là. Je pensais effectivement.
Ah mais pas du tout. Et non, c'est un documentaire animalier, et c'est pour ça aussi que je trouve, mais on pourra en reparler quand ça sortira, je trouve la communication sur ce film, enfin, du coup l'affiche, parce que tout le monde va penser que c'est effectivement un live action peut-être sur Bambi,
ouais.
Mais non, ils ont élevé du coup des animaux pour faire un peu comme le livre, voilà. Le conte originel et je trouve ça raté vraiment non mais après j'ai pas vu une version finale alors on nous l'a présenté sans les bruitages peut-être que mais c'est Boris Jolivet d'ailleurs qui a fait les bruitages du film.
D'accord. Le pauvre.
Ouais mais non mais ouais je trouve qu'il y a un truc qui...
Est-ce que c'est un film français?
Ouais, c'est un film français, ouais.
Et qui joue le chasseur? C'est Christian Clavier.
Non, c'est Didier Bourdon.
Ouais, j'ai vu une bande-annonce ce matin avec Didier Bourdon. C'est 4-0, ils ont fait la suite de 3-0. Je ne sais pas si vous aviez vu cette comédie sur le foot. C'est le réalisateur de Camping qui a fait le film. Je ne sais pas ce que ça va
valoir. Si ça marche, tu peux aller loin. Après, tu peux faire 5-0.
Ouais, 6-0, c'est ça, 10-0.
Ils ont trouvé le concept.
C'est ça, ouais. Et, enfin, en tout cas, là, ouais, Bambi, bon. Mais c'est un film pour les enfants. Et c'est bien simple, hein. Moi, je l'ai vu avec plusieurs personnes qui travaillent sur le jeune public en France. En fait, il n'y en a pas un qui a soutenu le film. Hein. Donc, ouais. Pour vous dire. Et on est très bon public. Hein. Mais au bout d'un moment, je pense avant tout aux spectateurs qui iront voir le film et qui seront sûrement déçus de voir le film. Après, il y a des qualités. Il y a aussi des qualités dans le film, mais je trouve qu'il y a une proposition qui est un peu malhonnête. En fait, c'est plutôt ça que je.
Il faudrait qu'il fasse le petit dinosaure à la vallée des merveilles en action live.
Il est tellement bien en dessin animé. Ouais.
C'est dur de trouver des dinosaures.
C'est vrai.
Des fans, c'est plus simple.
Ils ont déjà fait Jurassic Park.
Ouais. On vous conseille d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, de voir le petit dinosaure et la vallée des merveilles.
Ouais. Avec petits pieds.
Ouais, c'est trop mignon. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Juste, la semaine prochaine, c'est quelque chose qui n'est pas connu du grand public, mais il y a le congrès des exploitants de cinéma. C'est l'un des plus grands événements après Cannes pour les exploitants de cinéma. Et donc les professionnels se réunissent à Deauville, c'est à Deauville tous les ans. Et il y a aussi bien les gros cinémas que les plus petites salles. Donc tous les courants sont représentés et il y a des réunions des discussions sur le métier. Et par exemple, cette année, il y a plusieurs réunions qui sont retransmises aussi en direct pour ceux qui ne peuvent pas y aller. Donc si comme moi, vous ne pouvez pas aller là-bas, vous pouvez regarder ça en direct sur YouTube pendant les débats. Et cette année, ce que j'ai compris, c'est que les gros cinémas aller faire un peu la guerre aux plus petits, parce que cet été, par exemple, les cinémas itinérants qui ont passé, par exemple, un petit truc en plus en plein air, ça n'a pas du tout plu aux gros cinémas, aux multiplex. Et ils vont pleurer un peu, je pense, parce qu'ils sont en baisse d'entrée par rapport aux plus petites salles. Quoi.
Ah oui.
Après, faut-il s'interroger sur le prix des places qu'il y a dans ces multiplex. Et
des pop-corn aussi.
Hein. Ah oui, sûrement que les gens, vu le prix des places, achètent moins de pop-corn et du coup, ils se font moins de marge. Enfin, y a sûrement un équilibre économique aussi.
Et en France, il n'y a pas de pop-corn salé. C'est ça. Hein.
On pourrait faire un beau débat là.
Ouais. Ouais. Ah oui, pop-corn salé ou pop-corn. Ouais.
Peut-être que c'est un
peu
de faire revenir du monde.
Peut-être.
Vous préférez quoi, vous, beurre, sel ou sucre?
Les trois.
J'avoue, moi, j'ai le beurre, j'étais...
Non.
Eh ben si, je t'assure.
Ah ouais.
Moi, la première fois qu'on m'a dit, vas-y, il faut mettre du beurre, j'y croyais pas. Je fais, mais non, mais c'est quoi ces conneries? Et c'est extraordinaire.
Ok, il faudrait que j'essaye.
Ça a changé ma vie.
Ah ouais, carrément. Ouais. Si vous aussi, les pop-corns,
si vous aussi,
ont changé votre vie, vous pouvez nous appeler.
Voilà. Venez témoigner à l'antenne,
libre antenne sur Plan Séquence sur Radio Campus Tour. On va passer aux chroniques. On va passer celle de Pierre qui n'est pas là, qui a vu un film français qui s'appelle Langue étrangère. Je vais essayer de le retrouver. Est-ce que j'ai pris Apple ? Là, c'est là. Et c'est le nouveau film de Claire Burget qui avait fait C'est ça l'amour avec Bouly Lanners il y a quelques années et qui avait co-réalisé. Party Girl, il y a au moins 10 ans maintenant. Et là, c'est son troisième film. Je vous laisse avec Pierre et puis on se retrouve dans quelques minutes.
Alors, Langue étrangère, c'est le troisième long métrage de sa réalisatrice, Claire Burger, qui raconte l'histoire de Fanny, une lycéenne de 17 ans, qui part en Allemagne dans le cadre d'un échange linguistique et qui va rencontrer Lena, sa correspondante, qui a le même âge qu'elle et qui souhaite s'engager dans l'activisme politique. Et donc, on va suivre la relation d'amitié qui va se nouer progressivement entre ces deux adolescentes, et même un peu plus. Langue étrangère, c'est un teenage movie très touchant, très juste sur les problèmes et les angoisses d'une génération, qui parle notamment d'un rapport conflictuel à la famille et de comment cette famille peut parfois faire du mal aux individus qui la composent. Mais au-delà de ces sujets, le film a quelque chose en plus, une liberté à laquelle je ne m'attendais pas, et c'est dû à des choses qui entourent le film, qui pourront peut-être vous donner des clés de lecture. J'ai d'abord été intrigué par le générique de début, puisqu'on y annonce que la bande originale a été composée par Rebecca Warrior. Et Rebecca Warrior, c'est une personnalité pas comme les autres. C'est une artiste électro assez engagée, assez explicitement antifasciste dans certaines chansons. Elle a plusieurs projets musicaux différents, les groupes Sexy Sushi, Mansfield T.Y.A. et Compromat. Et alors pourquoi sa présence m'intéresse? C'est parce qu'elle colle parfaitement avec l'esprit du film. Au-delà de cette super BO et de son caméo dans le film, sur le tube de Sexy Sushi assez hilarant que je vous invite à écouter qui s'appelle J'aime mon pays, le titre est assez ironique, vous vous en doutez, elle incarne bien cet esprit un peu punk, anti-système, anarchiste, qui constitue l'idéal du personnage de Lena dans le film, et vous verrez que cet idéal a son importance. Et j'ai d'ailleurs découvert que Claire Burger, la réalisatrice du film, a réalisé un clip pour Rebecca Warrior avec en guest Adèle Haenel, l'actrice bien connue, qui représente aussi ce militantisme féministe et lesbien dans le monde du cinéma. Et d'ailleurs, pour les fans de cinéma, il faut savoir que ce clip a été conçu comme un hommage à L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot, ce légendaire film perdu et inachevé. Donc tout ça pour dire que ce petit écosystème de gens-là, Rebecca Warrior, Adèle Haenel et Claire Burger, il explique pour moi quelque chose de très présent, même si très discret dans le film, qui est son esprit. Le film paraît relativement classique dans sa forme, dans sa narration, mais il raconte une histoire qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir, et il transmet par son cadre, son idéal, ses représentations, des valeurs qui sont quand même relativement rares dans le cinéma français. Ce que ce film m'a fait comprendre, en définitive, c'est l'importance parfois primordiale que peut avoir le contexte dans un film, puisque ce qui m'a le plus touché, c'est l'ancrage réel et contemporain de celui-ci. Ce qui m'a fait m'identifier à ces deux adolescentes, c'est leurs doutes, leurs peurs, leurs valeurs, le fait qu'elles se rendent dans des manifs contre la réforme des retraites ou dans un concert de Sexy Sushi. Donc si vous allez voir Langue étrangère, vous ne verrez sûrement qu'une petite romance adolescente mignonne, mais si le féminisme, l'écologie ou l'antifascisme, ça vous parle, vous y verrez sûrement beaucoup plus que ça.
Merci Pierre pour ta chronique de Langue étrangère. Donc le film est visible au cinéma studio actuellement. Autre film, alors pas là au cinéma studio, on sera plutôt sur du CGA ou du Pathé pour voir le film familial de cette rentrée, Mon ami le petit manchot.
Tout à fait, Mon ami le petit manchot.
Charles voulait à tout prix le voir, du coup il vraiment, oui, y a ça, pas d'ironie de ma part en disant
va,
ça.
On c'est... va en parler tout à l'heure. Mon ami le petit manchot, vous savez, en fait au cinéma, il y a plusieurs types de créatures qui existent. Il y a les créatures gentilles et les créatures pas gentilles. Alors, les créatures pas gentilles, par exemple, il y a les aliens. Voilà. Et,
pas gentil,
ouais. Et puis les gentils, il y a les pingouins, les manchots.
Les manchots gentils, les pingouins.
Malheureusement, nous avons déjà parlé d'aliens avec Jiri l'autre jour. Donc, c'est des manchots dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc,
t'es ému en fait.
Je suis un peu ému, j'avoue, j'ai la voix qui tremblote.
Les bras t'en tombent.
Les bras m'en tombent. Et voilà, donc Mon ami le petit manchot, qui est un film qui est sorti récemment, et c'était réalisé par donc David Shurman. David Shurman, il a fait quoi avant ?
Oui.
J'ai regardé sa filmo et je me suis dit, on s'en fout. Vraiment, c'est pas très grave. Bon, il a pas fait grand chose hein, avant. Enfin, il a fait des trucs, mais voilà, c'est pas très grave.
Mais peut-être qu'on peut commencer par ce film-là pour connaître sa filmographie.
Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc, mais au casting, voilà, on a un acteur français très célèbre. On a Jean Reno. Jean Reno, voilà, qui fait pas l'unanimité hein, chez tout le monde. Hein. Il y a les fans de Jean Reno et puis il y a les autres.
Et nous, on est un peu les autres.
Qui sont un peu présents dans ce studio. Jean Reno, alors voilà, on n'a plus besoin de le présenter. Hein. C'est quand même un acteur qui est ultra connu. Hein, acteur fétiche pendant longtemps de Luc Besson. Il a joué dans Léon, Nikita, Wasabi, un peu le Pacte du Loup, non pas les, le Pacte du Loup, les Rivières Pourpres,
ouais.
de Mathieu Kassovitz, etc. Donc voilà, il a eu une période où on le voyait quand même beaucoup, hein, dans les années 90, début 2000, on le voyait beaucoup. Et d'ailleurs, oui, c'est même l'acteur, et je crois qu'il a débuté avec Luc Besson, il joue dans le premier film de Luc Besson. C'était l'acteur principal du dernier combat de Luc Besson. Et ça me fait penser que j'ai trouvé le DVD à 50 centimes il n'y a pas longtemps et que je ne l'ai toujours pas regardé.
Tu dis grâce, Charles, tu dis grâce.
Ouais.
Pardon, excusez-moi.
Reviens au petit manchot.
Voilà. Le petit manchot. j'essaye d'éviter, hein, je vais m'en sortir.
On voit ça.
Alors, évidemment, parce que c'est mieux, les histoires comme le petit manchot, c'est mieux si c'est une histoire vraie à la base. Sinon, on n'y croit pas trop. Mm. Donc, d'après une histoire vraie, c'est la fabuleuse aventure de Din Dim, un pingouin sauvé par un pêcheur au grand cœur. Et la beauté de la nature transforme cette rencontre en une extraordinaire histoire d'amitié.
C'est beau. Et comment on peut pas ne pas aimer ce film, du coup, après cette histoire
Effectivement. Hein, alors, ça se passe au Brésil. Contrairement à ce que m'avait dit une bénévole qui travaillait avec moi ce jour-là où j'ai projeté le film, qui m'avait dit « Ah, Jean Reno, quand même, il joue dans beaucoup de films en Asie. Hein, » Et je suis ouais, c'est vrai.
C'est dire Asie avec un A ou Nazi avec un N?
En Asie avec un A. Et non, là, effectivement, ça se passe au Brésil. Et Jean Reno, alors au début, il n'est pas joué par Jean Reno. son personnage. Oh, il est papa, il a un gamin, etc. Il vit au bord d'une plage, il est pêcheur. Et un jour, bah, il part à la pêche en mer avec son fils qui insiste vraiment pour y aller. Alors que, voilà, papa Jean Reno, il n'est pas convaincu par la météo. Il fait, ouais, je sais pas, ça pue un peu. Il y a des gros nuages, pas sûr que ça soit muté. Et puis le gamin, il fait, allez, vas-y, j'ai passé chez l'école pour rien.
Ah ouais, il est...
Ouais, il est tout gamin. Ah. Et puis bon, bah, ils y vont, hein, dans une barque, et bah, ils n'auraient pas dû. Le gamin tombe à l'eau et se noie. Oh. Donc, grand drame. Jean Reno, donc c'est là où Jean Reno arrive en tant que Jean Reno, l'acteur. Okay. Parce que ça se passe des années et des années après. Il est vieux, bah, il a l'âge qu'il a aujourd'hui. Et puis bah, il est un peu voilà, il a perdu sa sociabilité, son grand cœur, voilà, il est plus trop là parce que bah, son
cœur, il est un peu aigri,
noyé avec le gamin, son cœur. Ouais. Et puis bah, un jour voilà, où il est sur la plage et où il snob un peu tout le monde, hein, et ben bah, soudain il voit un manchot arriver, enfin il voit quelque chose flotter et puis il se jette à l'eau, etc. Et puis bah, il trouve un manchot qui est plein de pétrole, en fait. Voilà, il y a une fuite de pétrole sur un cargo un peu plus loin en mer, et puis bah voilà, le pauvre manchot, il est en train de mourir. Alors déjà, il a rien à faire là, parce que les manchots, ils vont pas au Brésil d'habitude. Mais c'est que celui-ci, en partant avec tous ses potes, vous voyez, c'est les manchots, ils partent tous et puis ils vont voilà, ils migrent. Bon bah, il s'est perdu en chemin.
Ça arrive,
hein. Moi ça m'arrive plein de fois aussi. Et il s'est retrouvé voilà dans cette marée noire et puis au Brésil. Du coup bah, Jean Reno, il le sauve, le nettoie et puis bah va commencer une grande amitié au début. Il va essayer de l'aider à retrouver son chemin. Mais non, en fait, le manchot, il est bien. Il est au Brésil. Je veux dire, moi je rêve d'aller au Brésil. Et moi je suis manchot. Bah, vas-y, Brésil, pas grave.
Toutes mes condoléances.
Comment ?
Toutes mes condoléances.
Bah ouais. Et donc voilà, et bon, le manchot va repartir hein, de temps en temps quand même, et puis à chaque fois, quand c'est la migration, bah, en fait il revient, tous les ans il revient. Et puis bah, voilà, ça va faire un peu le buzz, quelqu'un va filmer ça avec son téléphone, ça va faire le buzz sur les réseaux sociaux, et puis bah, voilà, ça va être toute une histoire de l'aventure de Dim Dim qui revient tous les ans voir Jean Reno. C'est son dernier fan en fait, il n'y a plus que lui qui aime bien Jean Reno.
Alors qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le film?
Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Alors déjà le doublage, parce que je suis pas sûr qu'ils aient sorti une VO du film. Il n'y a que Jean Reno qui se double lui-même, sinon tous les autres acteurs, alors je sais même pas si c'est des acteurs, hein. Je pense qu'ils ont vraiment pris les gens qui étaient sur la plage pour les filmer.
Le manchot, il est doublé.
Voilà, c'est un peu doublé comme un reportage de France 3, hein, donc c'est un peu un petit peu chaotique. Et puis bah voilà, ouais, c'est la petite histoire pleine de bons sentiments. Et je sais pas quoi dire en fait sur ce film.
C'est pas
indispensable.
Oui, c'est ça. Déjà, l'affiche, elle est.
L'affiche, ouais. Voilà, voilà, c'est Jean Reno. Je voulais le décrire. Hein, c'est on voit Jean Reno qui tient le manchot dans ses bras. Et en fait, il y a le ciel, un beau ciel, un coucher de soleil en dessous de lui. Puis la moitié de l'affiche, du bas de l'affiche, c'est l'océan avec des pingouins qui nagent et qui écrit mon ami le petit manchot. Et c'est, ouais, voilà, c'est beau. L'affiche, elle annonce vraiment le film. Hein. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas l'affiche, vous n'aimerez pas le film. Si vous êtes sensible à l'affiche, bon, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre truc.
Mais dans le dossier de presse, ils mettent plusieurs fois « merveilleuse histoire vraie »,« une incroyable histoire vraie ».
J'ai pas cherché à en savoir plus sur l'histoire vraie. Hein. Genre à avoir une vraie photo de Dim Dim.
Ah
oui.
Ah, c'était en 2011, en tout cas, que João Pereira de Souza, pêcheur au Brésil, a découvert un manchot recouvert de goudron.
Ouais. Alors, il y a plein d'acteurs qui ont joué le manchot, hein, parce qu'au générique, il y a la liste des manchots qui ont joué les manchots. Et c'était 10 quand même, 10 doublures. Tu vois, je pense qu'il y en avait qui étaient plus pour les modes
de jalousie,
cascade. Tu
ouais.
vois,
de ses presses, il fait 5 pages, quoi. Mais
bravo, voilà. Hein, parce que moi, tout tient sur une page, hein, franchement. Donc, ouais, non, c'est quand même. Je l'ai vécu ce moment.
Et est-ce que tu regrettes ?
Est-ce que je regrette ?
Tu l'as vu quand même, tu vois.
Il faut quand même dire un petit peu les choses, hein, avant de finir quand même. Voilà, si sur Radio Campus, on est une radio qui se veut être une une radio qui offre une grande liberté de parole à ses adhérents et chroniqueurs. Sachez que quand même aujourd'hui, je parle sous la contrainte. Tel Edward Snowden, moi je me positionne en lanceur d'alerte et je dénonce Solène, patronne de cette émission, mais aussi ma directrice dans le travail, de m'avoir forcé quand même à voir ce film. Alors que tout le monde, tous les autres cinémas, ils projetaient Alien Romulus. Même au studio, ils ont projeté Alien Romulus et ils n'ont pas passé, mon ami, le petit manchot. Roselyne, programmatrice des studios, si tu m'écoutes, au secours, je t'en supplie, viens à mon aide. Fais quelque chose parce que nous, on n'a pas passé Alien. Et
non, attends, laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Solène, au secours.
Quel acting. Quel acting. Voilà. Va travailler au studio, je sais pas. Non, pour l'instant, Alien, peut-être. Et tu sais qu'on m'a proposé, il y a un ciné-club qui nous a proposé de passer en DCP Godzilla. Quoi ? Je sais pas si on répondra oui ou non, parce que c'est assez loin.
Voilà,
mais
un autre type de créature, mi-gentil, mi-méchant. Hein.
Godzilla avec Jean Reno.
Ah ouais, alors par contre, si tu te trompes de Godzilla... Merci Jerry,
on y revient.
Je ne sais pas lequel c'est.
Il a fait ça, ouais.
Ah oui, c'est vrai. Et bon,
donc ouais, non, attention, il ne faut pas se tromper.
Il y a Louise qui nous a rejoint pendant cette chronique du Petit Manchot. Bonsoir Louise, bonjour.
Ouais, bonjour.
Bonjour.
Ah je suis arrivée dans un moment, je pense, qui méritait vraiment.
Ça méritait une chronique.
On te sent émue, t'as les larmes.
Ouais, non mais vraiment le film.
Tu vas aller le voir.
Bah, une histoire merveilleusement vraie. Oui, ça se trouve, Rosine, elle va nous écouter, elle va dire « Je programme ce film !»
Mais promis, Louise, si un jour je trouve le DVD à 50 centimes à EasyCash, je te l'achète.
C'est vrai ? Ah, incroyable.
Voilà. Peut-être qu'il ne sera même pas à 50 centimes. Hein.
50 centimes. Peut-être 20 centimes.
Je serai obligé d'acheter 10 autres DVD pour l'avoir, celui-là, parce qu'il sera dans un pack.
Ouais, c'est ça. Il sera gratuit, en fait.
Mais ouais, je me disais, Jean Reno, c'est vrai qu'il a... pas tout fait de bien quand même. Hein. Il y a un film aussi de samouraï, ou je sais plus comment ça s'appelle, le truc.
Oui. Il a même joué dans un jeu vidéo de samouraï.
Oui, parce qu'il est très connu au Japon.
Oui.
C'est vrai,
oui,
ouais,
oui,
c'est gros star au Japon. Ouais.
C'est un acteur que j'aime beaucoup pourtant, mais... Bon.
C'est bien que tu as loupé le début de la chronique. Parce qu'on n'était pas trop dans ce sens-là. Mais c'est pas grave, on a le droit de l'aimer Jean Reno.
Bah oui, on a le droit d'aimer.
Je te respecte.
Ouais. Il était très bien dans Les Visiteurs, seulement dans Les Visiteurs.
Voilà, dans Les Visiteurs.
Dans les films de Luc Besson aussi, Le Grand Bleu, il est bien dedans.
Oh, Léon, il est pas mal.
Ouais. Et ben, on peut passer une musique pas du Petit Manchot.
Non, parce que je ne me souviens même pas si il y a de la musique dans ce film.
Mais tout à l'heure, Pierre nous a parlé du film Langue étrangère. Donc là, il nous a parlé de la BO dans sa chronique. Donc là, on va passer J'aime mon pays de Sexy Sushi.
J'aime que tout soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime
sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Il est midi et demi, vous écoutez Plan Séquence. Et tout de suite, on va parler d'une série d'Arte, Géry.
Exactement, une série documentaire et musicale, puisque c'est une série hommage à DJ Mehdi, de son vrai nom Mehdi Faveris Essadi, qui est né le 20 janvier 1977 et qui est très tristement décédé le 13 septembre 2011, à l'âge de 34 ans. Donc c'est une série, comme je disais, créée par Arte et en partenariat avec Combini aussi des proches donc de DJ Mehdi. J'avais envie de parler de cette série parce que je suis en plein cours de visionnage, c'est pas très long, il y a 6 épisodes. Et je me disais que ça faisait un bon lien avec l'antenne de Radio Campus et sa couleur musicale, puisque c'est un DJ qui est finalement pas si connu que ça, parce qu'il est principalement resté dans l'ombre en tant que producteur, mais qui a eu un impact majeur aussi bien sur le hip-hop et le rap en France que sur la musique électronique dite French Touch. Donc la série parle de sa jeunesse et aussi de ses productions. Donc c'est un DJ issu de l'immigration, donc de famille tunisienne, et qui avait une vision assez avant-gardiste par rapport à la musique. Il a commencé dans le hip-hop, notamment en créant lui-même un sampler. Donc, c'est-à-dire qu'il a trouvé des plans de quelqu'un qui bossait chez une marque d'instruments de musique. Et il a créé lui-même, de A à Z, un sampler. Et la série va beaucoup se baser là-dessus, sur le sampling, donc c'est-à-dire la récupération de morceaux pour les intégrer et en faire de nouveaux morceaux. Il avait une façon, comme je le disais, assez avant-gardiste. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90, la tendance dans le hip-hop, c'était quand même de récupérer des morceaux de chansons venues des États-Unis et de les mettre en boucle. Tout simplement d'aller voir, d'aller piocher dans les titres phares et connus. Alors tandis que lui, DJ Mehdi, il a pris le contre-pied, c'est-à-dire qu'il a été chiné, fouillé, digué, comme diraient certains, des vinyles, il y a certaines pochettes qui sont hilarantes, dans des brocantes, etc., dans des greniers, en faire des boucles, les mettre à l'envers, les compresser, enfin bref, triturer le son au maximum pour créer son esthétique. Et ce qui est aussi intéressant dans cette série, c'est que ça revient en fait sur le contexte social et politique des années 90, qui n'était pas tendre, c'est peu le dire, avec le rap, mais aussi avec les jeunesses issues de l'immigration. Et comme je vous disais, il a eu vraiment un impact majeur sur le rap en France. Il a notamment collaboré à la production des morceaux de MC Solar en son temps. Et aussi, ce qui l'a rendu assez connu, c'est d'avoir créé la musique d'un groupe qui débutait à l'époque, qui s'appelle 113, et notamment sur leur album phare, Prince de la Ville, un album qui, à la fin des années 90, aura eu 2 victoires de la musique, ce qui ne s'était jamais vu, puisque c'était un milieu trusté par la variété française, hein, faut pas se leurrer. Et en fait, ça a été très mal vu par certains artistes comme Pascal Obispo que voilà un groupe de rap puisse avoir 2 victoires une sur la catégorie une catégorie assez large qui est musique urbaine et reggae, enfin quelque chose de comme s'il y avait une sorte de malaise à dire le mot rap, et aussi la victoire globale en fait, le trophée parmi les trophées. Et en fait, il s'est pas arrêté là. Il a eu aussi également un grand pont avec les musiques électroniques. Là aussi, en France, il y avait vraiment un écart, grosso modo, entre les jeunes français blancs qui écoutaient de la techno et de la house, et les jeunes issus de l'immigration, plutôt banlieusards, qui écoutaient le rap. Et lui a réussi à faire la jonction entre les deux et a avoir un succès notable sur ces deux types musicaux. Il avait vraiment une vision globale de l'art et de la musique. Donc c'est une série en 6 épisodes, comme je vous le disais. Moi, j'en suis à mon 4e. Je vous la conseille vivement. Même si vous n'êtes pas forcément fan des groupes de rap comme 113 la mafia cafri, ce genre de musique, puisque c'est intéressant vraiment sur le contexte social et également le contexte musical, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'ordinateur dans les foyers. On le voit triturer ses platines, créer lui-même ses propres machines. C'est très intéressant. Et quand je vois certains artistes maintenant qui retournent au synthé modulaire, ben, je trouve qu'il avait... À voir les photos, en fait, on retrouve maintenant certains types de machines qu'utilisent les artistes maintenant. Donc il a vraiment laissé sa patte, et pourtant elle est toujours restée dans l'ombre. Et donc je trouve ça bien que cette série lui rend hommage. Donc voilà, en 6 épisodes sur Arte, vous pouvez le voir gratuitement. Et bien, on va s'écouter le morceau Prince de la Ville, qui l'a rendu célèbre, et qui a rendu aussi le groupe 113 célèbre.
C'est parti.
Peu d'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzagant entre le mal et les délits, je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y'a une queue d'un kilomètre pour gagner 3 pépés. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Et pour le petit smicard, y'a de quoi s'alarmer. Les bras quoi m'armer, tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Vitrine 9-4 de ma ville, je veux être le prince. Je veux pas te cacher, monsieur le maire est une pince. Des promesses y'a pas à dire, y'en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend toujours. Les beaux monuments à 100 bars, nous on s'en fout. Soi-disant députés en costard, ils s'en foutent. Comme tout citoyen, je suis censé aller voter. Histoire de dire que j'existe dans leur communauté. Ouais, c'est impossible, quand je vois des frères menottés. Au déboire à Bénoir, c'est pas une nouveauté. A la suite, je félicite les gros bonnets illicites. Pas d'ingénieur dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux. Parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux, où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
C'est quand tu veux.
On vit en HLM les uns sur les autres, et les superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage. On vit en marge, en gros on est tous barges. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu payes pas ton loyer, c'est l'expulsion. Val-de-Marne, pourcentage d'immigration aussi élevé que tous mes frères qui mettent en prison. Pour se payer un avocat, pour plein de Pascal. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences. On n'a jamais eu de chance, les circonstances fortes qu'à pénitence. T'as pas réglé tes amendes, le trésor public t'a coincé. Oublie les vacances d'été,
des TIG.
Surtout on met la pression. Ta boîte aux lettres est pleine de rappels et d'assignations.
Ouais mec,
ouais mec.
C'est ça notre vie, code 94-400 Vitry. Ma banlieue a ses qualités, ses défauts. Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau. D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux. Gros, tous vitriaux,
vitriaux.
Même si c'est pas tous les jours facile, je veux être le prince de ma ville.
On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux. Tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand
tu veux. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux,
quand.
Voilà, c'était 113 Prince des Villes sur Radio Campus Tours. Et là, on va passer aussi à un film de patrimoine maintenant, parce que si je ne me trompe pas, le film est sorti quand même il y a plus de 20 ans maintenant, hein. Memento de Christopher Nolan.
C'est ça, il a 24 ans. Voilà. Il est sorti en 2000. Donc, c'est un thriller américain réalisé par Christopher Nolan.
Ce que je savais pas, c'est qu'il est quand même âgé, Christopher Nolan. Enfin, âgé.
Attends, bon, vas-y.
Attention, non, mais il a 54 ans.
Eh ben, il a que 10 ans de plus que.
Ah, bah.
Attends,
ah.
J'ai 43.
Ah, donc, ah 11, bah, ans. Ça, 11 ans. Donc, il est né en 1970. Et en fait, c'est, ce que je savais pas, c'est qu'il a la double nationalité, britannique et américain. Oh, ouais. Voilà, j'ai appris ça tout à l'heure. Et donc, ce film-là, Memento, ça raconte l'histoire d'un homme qui ne se souvient pas, en fait. Memento, ça signifie « souviens-toi » en latin. Et donc, c'est assez drôle, puisque bon, le personnage principal, en fait, il est un amnésique, mais un petit peu particulier. C'est, j'ai trouvé le nom, ça, en fait, c'est de l'amnésie antérograde. Donc, en fait, c'est un type d'amnésie qui ne fait pas tout oublier complètement. Par exemple, on peut toujours faire des actions quotidiennes, etc. Mais si on rencontre des gens et qu'on parle avec eux plus de 5 minutes, on va oublier ce qui s'est passé et on va oublier qu'on les a rencontrés. Et donc, en fait, cet homme-là, pour se souvenir, il va se faire des tatouages au fur et à mesure. Donc, son corps est couvert de tatouages. Et lui, en fait, il vit que pour un seul but. C'est pour venger sa femme qui, en fait, a été violée et tuée par quelqu'un. Et donc, en fait, son but, c'est de retrouver un certain John Jay, donc qui est censé être pour lui le tueur de sa femme. Et donc, sur son bras, c'est assez intéressant parce que c'est comme si on avait une enquête. Partout, il écrit des numéros de voiture, des numéros de téléphone. Et il se fait aussi des petits mots pour des lendemains, entre guillemets, pour se dire « Ah, là, maintenant, il faut que tu ailles à tel endroit. » Et tout. Et puis, il prend aussi des photos Polaroid d'endroits où il écrit là, par exemple, tu vas loger ici 3 jours, où il écrit ce que les personnes sont et si, par exemple, elles mentent et tout. Et en fait, cet homme-là, du coup, il va être un petit peu entre amitié et manipulation. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont profiter justement du fait qu'il oublie pour les utiliser à leur propre fin. Donc, par exemple, pour tuer des gens, d'autres choses. Et donc, c'est assez intéressant puisque même dans la façon de filmer, en fait, Christopher Nolan, il joue aussi avec un contraste de noir et blanc et de couleur. On va avoir des scènes qui sont, on a l'impression que c'est dans le passé et du coup, c'est noir et blanc, et des scènes qui sont la journée. Et du coup, l'instant présent, et qui seront en couleur. Donc en fait, ça donne une sorte de rythme, mais ça fait aussi perdre la notion du temps. En fait, ce film-là, il est vraiment troublant, parce qu'au départ, on suit, on essaye de comprendre, en fait, on ne comprend pas tout, et ça se mélange. Et à la fin, je trouve, on ne comprend plus rien. C'est un peu le Christopher Nolan, quoi. C'est comme dans Inception. On se dit, ah, j'ai compris, machin, et puis au final, ah bah non.
C'est un peu ça dans tous ces films, en fait.
Oh non, Interstellar, quand même, ça va.
Ça reste. Il cherche à nous perdre, quand même.
Oui, ça reste ouvert, en fait. J'ai l'impression que pour lui, on dirait, c'est comme s'il voulait jamais que ça se finisse, que ça se termine, les films. Il laisse tout ouvert, ce qui fait que l'histoire, en fait, on peut la continuer dans sa tête, se dire, ah, moi, je suis sûre que c'est ça et tout. Et je trouve ça bien. Et donc, ce personnage qui s'appelle Leonard Shelby, je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, il est interprété par Guy Pearce, qui a aussi joué dans Iron Man 3 et Prometheus. C'est marrant, parce que comme au cinéma en ce moment, enfin pas en ce moment, mais... Et du coup, au final, on ne sait pas si c'est un personnage gentil ou méchant, parce que du coup, il fait un petit peu sa propre justice, un peu violente. Si on devait le comparer, je dirais... comment ça s'appelle ? Vous savez, le justicier là, c'est pas vraiment un justicier, mais celui qui... Je vais pas retrouver le nom. Bon, c'est pas grave. Et
Harry.
De quoi ?
Non.
Non, ah oui, de Preacher. Preacher.
Ah, le Punisher.
Oui, ouais, le Punisher, c'est ça. Et du coup, je trouve que ça a un peu une comparaison avec, parce que au final, le film, il pose des questions aussi. C'est pas lui qui aurait quand même en quelque sorte tué sa femme, mais en fait non, enfin c'est bizarre. C'est pour ça. Et donc mon avis sur ce film, c'est assez mitigé, parce que pour moi je trouve que c'est pas le meilleur Nolan, parce que justement le jeu qu'il a essayé de créer, de nous perdre et tout, j'étais perdue clairement. C'est dommage, j'aurais aimé avoir plus de détails, je dirais plus être dans un chemin, qu'on me dirige dans un chemin, parce que là, j'étais vraiment perdue à la fin du film. Je me suis dit, mais je suis débile, je comprends rien, voilà. Et Bah après, sinon, c'est... voilà, je vous conseille quand même de voir parce que c'est un monument du cinéma, c'est comme tu disais. Puis Christopher Nolan, c'est quand même un bon réalisateur.
Faudrait voilà. que je le revoie, ça fait longtemps.
Ouais,
que
moi aussi, ça fait longtemps celui-là. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours curieux de voir les films de Nolan, mais à chaque fois, c'est ce que je reproche, ce que tu dis, c'est que, en fait, finalement, son côté de déconstruit de l'histoire. À mélanger l'ordre de l'histoire, nous raconter les événements, pas forcément dans l'ordre où ils sont passés réellement, etc. C'est vachement intéressant, mais aussi ça devient trop un style.
Oui.
Et parfois, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour chaque histoire ?
Bah là, je pense que dans ce film-là, oui, puisque bah, le personnage principal est amnésique.
Oui, voilà, du coup, là ça marche, effectivement.
C'est intéressant, mais je pense qu'à un certain stade, il faut que ça s'arrête, en fait. Parce qu'on ne comprend vraiment rien. Le scénario, même, je me suis dit, mais comment ils ont réussi à tourner ? Parce que...
Moi, je ne suis pas sûr que parfois, lui, il comprenne vraiment ce qu'il fait.
Ouais. Hein. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de hasard dans cette réalisation et tout ? Parce que, tu vois, on se dit, mais c'est tellement lunaire ce qui se passe. Je pense même les acteurs, ils ne savaient pas trop ce qu'ils devaient faire.
Hein. J'ai revu Oppenheimer il n'y a pas très longtemps et ma deuxième vision du film a été un peu plus mitigée que la première. Parce qu'effectivement, j'ai... Le fait de nous raconter l'histoire pas dans l'ordre chronologique, parfois c'est pas vraiment utile en fait. Et là c'est vraiment juste du style narratif, mais qui apporte pas grand chose à l'histoire en elle-même.
Mais ce qui est intéressant pour un biopic, parce qu'il y a pas beaucoup de biopics finalement qui sont racontés de cette façon-là.
Il va peut-être un peu trop loin parfois dans ce sens-là, mais il fait ça depuis son premier film. Moi je conseille son premier film qui s'appelle The Follower ou Following, je sais plus. Ouais. Qui est un film en noir et blanc à tout petit budget. C'est très drôle parce que lui qui est habitué maintenant à faire des films qui coûtent entre 100 et 400 millions de dollars, son tout premier film n'a coûté que 6 000 $. Il était caméraman, voilà, il faisait tout, il n'y avait que deux, trois acteurs dessus. Il y a très peu lieu de tournage. Il était déjà à l'époque marié avec la femme avec qui il est toujours, qui est la productrice de tous ses films et qui était déjà la productrice de son tout premier film. Et effectivement, ils ont tourné le film en 35 mm, noir et blanc. Il était, c'était lui le caméraman du film. Éclairage, lumière entièrement naturelle. Donc, il y a des scènes où il est parfois dans des couloirs très sombres. On ne voit rien du tout parce qu'il n'y a pas du tout de lumière.
Ouais.
Et je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc, il a joué avec ça. Donc, c'est une curiosité. Mais pareil, voilà, c'est déjà une histoire. On voit dans ce film tout ce qui... Le début de ce qu'il va faire... par la suite dans son cinéma, c'est-à-dire voilà, il commence déjà à travailler des histoires déconstruites avec une chronologie voilà, qui est pas forcément chronologique, etc. Donc c'est intéressant.
Bah, par exemple, dans Batman, je crois que c'est The Dark Knight. Bah, je trouve que justement, on perd cette chronologie on ne retrouve pas du tout. Je pense que si on devait deviner que c'était lui qui l'avait réalisé, je pense que je n'aurais pas su. Quoi.
Ouais. C'est ce qui sort un peu du lot de ce qui sort un peu de sa filmo, les Batman, c'est vrai, j'y pensais plus. Ça sort un peu de ce qu'il fait d'habitude, quoi.
Et ben en tout cas, si vous voulez voilà le voir, il est disponible en DVD en
Blu-ray maintenant.
Et avant voilà, que je vous parle de Ma vie, ma gueule de Sophie Filière, là, c'est un film dont on vous parlera la semaine prochaine qu'on n'a pas encore vu. Mais voilà, les critiques sont assez dithyrambiques et j'ai vraiment hâte de voir ce film. C'est Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rasoulof, un grand cinéaste iranien. Et voilà, il y a une musique dans le film qui est un film assez politique sur ce qui se passe en Iran actuellement aussi. Donc je vous passe une musique voilà, qu'on peut entendre dans ce film-là, qui est une musique, l'hymne contestataire voilà, de l'Iran en ce moment.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی،
retour sur Radio Campus Tour dans Plan Séquence sur le 99.5 FM. Et pour finir voilà, cette émission, je vais vous parler du film Ma vie, ma gueule. C'est le 7e film de Sophie Filière. Alors Sophie Filière, faut savoir, voilà, c'était son 7e et dernier film, puisqu'elle est malheureusement décédée pendant le montage de son film. Elle a pu réaliser son film sans être malade, mais en fait, à la fin du tournage, elle a appris qu'elle était gravement malade, et elle a demandé à ses enfants, qui sont Agathe et Bonitzer, du coup, qui est une actrice aussi, Agathe Bonitzer, et Adam, du coup, son frère, de prendre la supervision du montage avec un chef monteur, hein, et de finir le travail qu'avait commencé sa maman. Leur maman. Donc c'est assez aussi touchant de savoir que cette histoire, elle a pu se finir, et que la filiation, par cette filiation, le film existe. C'est un film, c'est de la tragicomédie. C'est le portrait d'une femme d'une cinquantaine d'années, proche de la soixantaine, qui est incarnée par Agnès Jaoui, qui s'appelle Babette, qui est une actrice mais qui vacille un peu dans sa vie, qui sait pas trop bien elle va encore retravailler, si les réalisateurs ou des metteurs en scène veulent encore d'elle. Donc c'est quelqu'un qui est assez fantasque, assez lunatique par moments, un peu dépressive aussi mais assez attachante de bout en bout. Donc le film est construit un peu en deux parties. Une première partie où on voit ce personnage qui habite, alors elle habite à Paris, elle a des enfants, elle est séparée, mais on la voit dans la vie de tous les jours un peu, on va découvrir ce personnage. Et puis dans la deuxième partie, elle va fuir, en fait, elle va essayer aussi d'aller ailleurs pour essayer de revivre un petit peu, puisque là elle est un peu étouffée dans cette vie là enfin, en tout cas c'est ce qu'on ressent. Elle est assez exubérante, donc par moments peut-être qu'elle va peut-être agacer certaines personnes, parce que c'est quelqu'un qui a la parole facile. Pour exister, elle est obligée de parler, mais elle est assez touchante par toutes ces exubérances, et en fait il y a un côté, surtout dans la deuxième partie, assez poétique, assez mélancolique aussi, sur le temps qui passe et qui file, que c'est assez touchant. Encore une fois, c'est un portrait, elle l'expliquait comme ça, Sophie Filière, elle a toujours fait un cinéma assez singulier, Sophie Filière, c'est pas forcément, c'est quelqu'un qui est issu qu'a fait la Fémis dans les années 90 avec Noé Milowski. Enfin voilà, c'est la même génération que cette réalisatrice là, et c'est un voilà, elle a jamais fait forcément le haut de l'affiche ni forcément des festivals ni de la, mais elle était appréciée des critiques et des spectateurs cinéphiles. Voilà, dans cette elle a fait son dernier film, c'était La Belle et la Bête, elle a fait Gentille aussi, et à chaque fois c'était un cinéma assez sensible, assez touchant, et je crois qu'il faut réceptionner ce film comme vraiment un précieux héritage de cette réalisatrice là qui aura traversé le cinéma français assez rapidement, parce qu'elle avait 58 ans là quand elle est décédée, donc c'est assez jeune, et puis alors Agnès Jaoui qui est de tous les plans, le film a été écrit pour elle, elle a accepté assez rapidement de jouer. Enfin, c'était la première actrice à qui Sophie Filière a proposé le rôle, et ça lui va comme un gant. Enfin, Agnès Jaoui, voilà, grande réalisatrice, grande actrice pour moi française. Si vous n'avez pas vu Le Goût des Autres, regardez Le Goût des Autres, c'est elle qui l'a réalisé. Elle est, ouais, je sais pas, dans son regard, il y a quelque chose de très touchant dans cette actrice. Enfin, peut-être que ça touche pas tout le monde, mais moi ça m'émeut en fait son regard et sa posture. Et c'est un film sur voilà, à la fois cette actrice est sur la quête de soi, comment on peut revivre après peut-être certains drames, comment on peut se relever de certains événements qu'on peut avoir dans la vie. Il y a, j'ai parlé d'Agnès Jaoui, mais il y a aussi Philippe Catherine qui fait son propre rôle dans le film, et qui, pareil, apporte un truc assez fantasque, assez de fantaisie dans le film. Ça arrive, des fois, on peut comprendre que ça arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais ça a un lien, en fait. Et je crois que c'est un film, il faut se laisser aussi porter par le tourbillon, voilà, de la narration, et il faut juste le prendre comme ça. Et puis, encore une fois, pour voir voilà, un beau portrait de femme aussi contemporaine, voilà, donc c'est, et le titre du film, voilà, Ma vie, ma gueule, ça, pour le coup ça a de la gueule d'avoir un titre comme ça. C'est pas prétentieux non plus, voilà, il n'y a pas de prétention en mettant, ça fait un peu provocateur, mais c'est pas le film a été présenté au dernier festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Et je vous conseille du coup de le voir. Et je vais finir par les mots de la productrice du film, Julie Salvador. Il y a plusieurs interviews d'elle qui parlent du film. Et elle dit « Sophie avait un sens de l'absurde incroyable, une faculté de se décoller des situations qui me bluffaient. » Voilà, je trouve que c'était une actrice, pareil, encore une fois, qui ne faisait pas les gros titres, mais voilà, qui fera quand même, en ce moment, il y a une rétrospective à la Cinémathèque française de son cinéma. Voilà, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, c'est au cinéma studio en ce moment, Ma vie, ma gueule. Et voilà, bah, il est 57. Parfait.
Parfait,
ouais. On rappelle voilà, l'ouverture de la Cinémathèque le 30 septembre. On essaiera d'en reparler la semaine prochaine, parce qu'on essaie de faire venir Elsa, du coup, pour parler de la prochaine programmation de la Cinémathèque. Peut-être qu'on aura des infos sur la programmation de Mauvais Tour samedi prochain. On rappelle, du 17 au 20 octobre. Et puis on essaiera pareil le samedi d'après d'avoir peut-être un organisateur du festival. Et voilà. C'est les journées du patrimoine aussi. Je sais que les cinémas studios, pareil, font des visites des cabines si vous êtes dans le coin. Voilà. Bah, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Non, moi j'essaie d'oublier le petit manchot, là, et de m'en remettre de tout ça.
On va faire une cellule psychologique.
Je vais faire un peu mon mémento, tu vois. Je vais me tatouer un pingouin sur le bras. Genre. Pourquoi j'ai un pingouin sur le bras? Ah, c'est que j'ai dû voir ce film.
Ça fait un peu Prison Break aussi.
Ouais, c'est ça. Ou Dory, tu sais, le monde de Dory.
Ah oui. Ah,
moi je connais le monde de Dora. Mais...
Non, Dory, elle oublie
Dory,
tout. C'est Nemo.
C'est Nemo.
Ah. Et elle oublie tout. Donc. Eh ben, nickel. On va se retrouver la semaine prochaine. Podcast dans quelques jours sur www.radiocampustour.com. Et puis aller au cinéma, regarder voilà, Arte, plateforme gratuite. Et puis sinon, ouais, voilà, médiathèque, bibliothèque. Et
Easy Cash pour les DVD ou Promo Cash, hein, faut pas faire de pub.
Ouais, les Emmaüs.
Ou Cash Converter.
Emmaüs, Brocante. Voilà. Et ciao, à la semaine prochaine.
Ciao.
Salut.
Salut.